écoutez le Tarot de la Cité.
Bonjour à tous, c'est l'émission du mardi. Et nous nous retrouvons au ciel autour de la table avec Alain et Isidore. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Florie. Bonjour Isidore.
Bonjour Alain.
On va refaire un peu des présentations. Donc la Cité des Interdits, c'est un jeu où on s'amuse à lire des cartes, à en faire des histoires pour trouver ce qui nous interdit, ce qui est interdit ou ce qui est tabou. Mais avant, on va peut-être... Isidore, est-ce que tu peux te présenter comme personnalité de la cité?
D'accord, on m'appelle Isidore. J'ai 25 ans et je me promène dans la cité. Et je fais aussi un peu de musique sous le nom de Loviola.
Qui est Loviola?
Loviola.
Et demain tu joues?
Et oui.
Ah oui.
Du coup, demain je jouerai rapidement au bar à l'ouest à Grenoble.
Ah, stylé.
À 20h30, voilà.
Trop bien. Ok, c'est un autre espace de la cité, le bar à l'ouest, un endroit chouette. Ok. Donc musicien de 25 ans. Et est-ce qu'Alain, toi, tu peux nous rappeler un petit peu le concept de ton jeu, de ce jeu?
Alors, ce jeu, il est né d'un accident. Parce que Florie, après m'avoir demandé de faire un jeu des signes du zodiaque, elle a eu l'outrance de me demander de faire un tarot. Je n'aime pas les cartes, je ne connais pas le tarot, et donc je dis non. Mais il se trouve que, tout de même, ça me chatouille un peu. Alors, je voudrais savoir ce que c'est qu'un tarot, je me renseigne un peu, ça ne m'évoque rien du tout. Mais je me dis, je vais tout de même tenter de dessiner deux ou trois cartes, et puis de les soumettre c'est même pas la critique, c'est les soumettre à sa sensibilité pour comprendre ce qu'elle peut en lire. Et c'est ainsi que commençait la grande aventure de presque 200 cartes, qui n'en font maintenant que 105, qui est un jeu qui est divisé dans un choix arbitraire, qui est de dire qu'on a la mémoire de tous nos âges. C'est-à-dire qu'on a la mémoire de notre enfance, mais on a aussi la formidable capacité de se projeter dans un futur, et pas forcément de s'imaginer très vieux, mais d'imaginer notre vieillesse. Donc on peut aller très loin, preuve en est d'ailleurs ce qu'on peut imaginer notre mort. C'est pas très difficile de se faire des scénarios de notre propre mort. Donc le jeu, il est amusant parce qu'il s'appuie sur... qu'est-ce qu'on vit à 5 ans, qu'est-ce qu'on vit à 30 ans, qu'est-ce qu'on vit à 40 ans, et à l'intérieur, avec le temps et les écrits de Florie, je trouvais que c'était intéressant de chercher les tabous, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de dire, qu'est-ce qui est indicible, et c'est assez fantastique, parce qu'il y a les invisibles sont indicibles, on le sait. Et c'est à partir de ce grand vide et cette grande difficulté qu'on a inventé des religions, par exemple. Donc on a fait des romans, le roman de Pâques, etc. Bon. Et puis dans d'autres civilisations, d'autres récits, et puis, etc. Donc c'est beaucoup le langage qui nous amène à trouver ce qui est difficile à dire. Et ce jeu, je trouve très intéressant parce que j'ai été surpris de la logique des cartes. On ne sait pas à quoi ça tient, c'est formidable. On met trois cartes et elles forment un récit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire tirer des cartes, voir s'il y a un récit, et toi, faire un récit du récit des cartes.
D'accord.
Voilà le jeu.
Ok. Et moi, j'avais encore envie de poser une question à toi, Isidore, sur qu'est-ce que c'est pour toi un tabou, par exemple, ou un interdit, si tu arriverais à... qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est?
Je pense qu'il y a plusieurs manières de voir l'interdit, enfin, plusieurs interdits. Il y a l'interdit un peu extérieur, où on sait que si on le franchit, on va se faire taper sur les doigts. okay. de manière directe. Mais je pense que le pire, c'est l'interdit intérieur, en fait. Enfin, quand on a dit à faire quelque chose et qu'on a une petite voix à l'intérieur qui dit qu'il ne faut pas le faire, et qu'on ne sait pas forcément toujours d'où vient cette voix.
C'est ça, d'ailleurs. C'est ça.
C'est effectivement ce qu'on cherche parfois dans les cartes, d'où vient c'est. Et tout à l'heure, donc, tu disais, il y a aussi le tabou du tarot. Ah ouais, je veux savoir pourquoi oui. tu dis ça.
Alors ça, c'était un petit peu pour plaisanter, mais un peu vrai aussi. Mais c'est plus personnel, mais je viens d'une famille assez catholique et assez croyante, et donc forcément le tarot, c'est tout de suite vu comme un outil de divination. Un peu, comment dire, paranormal, et donc forcément démoniaque. Enfin, ils mettent ça au même rang que le spiritisme, et donc si on parle de juste voir des images, les interpréter, ça peut vite être vu comme faire tourner les tables et invoquer des démons. Et c'est des choses qui peut être assez tabou, mais comme tous les tabous, c'est toujours intéressant justement de franchir la frontière.
Et oui. Merci pour toutes ces petites explications. Moi, dans cette création, ce pourquoi j'invite toujours une personne et que je suis le jeu d'Alain, c'est pour pouvoir récolter du vocabulaire et aussi des images. Parce que ça s'appelle le tarot de la cité, et le tarot de la cité est riche que des apports des membres de la cité. Si je fais ça toute seule, je tourne vite en rond. Donc merci de participer.
Mais de rien, avec grand plaisir.
Super. Très bien, Bastien est à la technique. Nous sommes sur Radio Campus Grenoble et nous allons ouvrir la première carte, qui est la carte numéro 103, et vous pouvez suivre les images sur le podcast de la radio Cité des Interdits, une émission du mardi avec Isidore. Alors, peut-être dans un premier temps, tu décris l'image, et puis après...
Oui, alors, j'ai... Donc, c'est une image en noir et blanc. Je vois deux visages, enfin deux têtes qui ont l'air d'être des têtes d'animaux, peut-être de chèvres ou de boucs. C'est intéressant parce que à gauche, j'ai l'impression de voir une lune en gravure. Et donc il y a une tête qui est très proche et qui regarde le spectateur avec un air assez. Qui a un regard assez intense, je dirais. Mais je saurais pas dire si c'est un regard de colère ou qui est plutôt interrogateur. Et donc derrière, il y a une autre tête de taureau ou de bouc, enfin, ou de bélier. Une tête cornue qui est un peu plus en retrait.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Tu dis un regard intense, et on ne sait pas si c'est un regard de colère ou un regard interrogateur. Et là, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'expression de quelque chose qui peut nous interdire ? C'est-à-dire qu'on ne va jamais oser dire à quelqu'un « Oula, là, ton regard, il fait flipper. »
Oui.
tu te poses une question ou tu es en colère ? Ouais. Et moi, ça a beaucoup été ça pour moi. Je crois que mes yeux expriment de la colère alors que je m'interroge toujours. Donc pour désamorcer, ouais. Si j'ai le regard colérique, si je pose une question, d'accord.
D'accord. Mais oui, enfin c'est, j'ai vraiment l'impression de, ouais, d'avoir ce visage où, enfin, je dirais pas fermé, mais justement qui exprime plein de choses contradictoires, et je me sens un peu jugé.
Ah. Tiens.
Pourquoi tu dis ça, là ? Tiens.
Ben, parce que ça précise de quelle direction est orienté le regard. Et le regard que l'on voit sur cette image est orienté vers le spectateur.
Oui, tout à fait.
Très fortement.
Ah, et tu te sentirais un peu jugé par eux deux, là ?
Ah oui.
Alors. Ah, ok. Je regarde bien.
Alors donc, c'est un peu inquisiteur, son regard.
Oui, oui.
Mais... Je comprends, je comprends.
Mais justement, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis soumis à la question et si c'est un regard vraiment, oui, de colère ou qui exprime autre chose.
Et pourtant, c'est qu'une image.
Ah oui.
Comment son regard peut-il être inquisiteur et pourquoi surtout on peut ressentir qu'il a un regard, oui, qui peut accuser quelque chose.
Il a des sourcils froncés.
Ah oui.
Et un couvre-chef qui a l'air d'être un béret ou oui. Quelque chose comme ça.
Oui.
Qui, je trouve, renforce ce côté un peu,
oui.
Un peu rude.
Oui, oui.
Et alors... qu'est-ce que tu aurais pu faire qui fait qu'on te regarde comme ça? Est-ce que, par exemple, comme c'est une carte qui est liée à l'approche de la mort, l'approche théorique de la mort, est-ce que tu as une pensée sur la mort qui pourrait faire froncer les sourcils à ton grand-père, par exemple?
Oula, alors, je sais pas trop, mais c'est... Enfin, avant de répondre à cette question, okay. Je trouve que c'est intéressant que ce soit sur la mort, parce que la première impression que j'ai eue en voyant la carte...
Oui.
C'était un visage qui était penché vers moi, comme si j'étais allongé, je venais de me réveiller, que j'ouvrais les yeux et que je voyais
oui.
Ce visage en train de me regarder.
C'est ça.
Et donc, il peut y avoir un lien avec la mort, le fait que...
Ah, c'est une visite.
Ouais.
Ah.
Peut-être que je suis justement sur mon gisant et que c'est un visage qui me regarde.
Ah oui. Ah oui, il surgit d'un ailleurs, c'est ce que tu veux dire ? Le personnage surgit d'un ailleurs et te regarde. C'est un visiteur étranger.
Oui, ouais.
Il n'est pas apparenté à quelqu'un que tu connais ou...
Pas particulièrement.
C'est ça.
Non, c'est... Et...
Ah. Et pourtant, qu'est-ce qui peut exprimer sa présence là tout d'un coup que tu découvres? Au premier regard, tu l'as dit, c'est ça, il vient et me regarde et presque il me surplombe.
Oui, complètement. Mais justement, en fait, j'arrive pas à savoir si s'il vient d'un ailleurs, par-delà la mort, on va dire,
mm-hmm.
Ou s'il vient d'ici en m'empêchant de... en me disant de rester ici.
Ah oui, et auquel cas, l'un et l'autre, est-ce que c'est pas la même chose?
Si, un petit peu. C'est vrai, c'est toujours un peu les deux faces d'une même pièce. Là.
Enfin, c'est pas la même chose, mais... Du coup, ce serait retrouver un fantôme dans les deux espaces, quoi. C'est marrant, parce que dans cette carte, c'est le soleil, lune.
Ouais.
Du coup, là, t'as envie de faire le choix du côté de la lune. Et pourtant, tu proposes qu'il y a les deux. Donc, il y a une forme de lucidité. Il y a une question qui pourrait être effectivement un vrai interdit, quelque chose de l'ordre du tabou au niveau des religions, c'est quelle partie prendre. Pourquoi on a pris le parti de... Et pourquoi on ne prend pas les deux, etc. Et est-ce que, comme tu es musicien, toi, tu as la sensation d'avoir pris un autre parti, d'avoir fait preuve de rébellion, par exemple, ou pas?
Bah pas vraiment, je pense que justement j'essaye de prendre les deux parties à la fois, absolument, et c'est... Enfin, je sais pas dans quelle mesure je peux faire une digression sur moi-même, mais...
Bah c'est ce qui est intéressant comme
mais
ça.
C'est intéressant parce que justement, c'est intéressant qu'on tombe sur le soleil et lune dès le début, parce que c'est vraiment des images et des thèmes qui sont importants pour moi en fait.
Dans ta musique,
oui.
Et dans ton
en général,
et dans ta pensée.
Okay. J'ai même un tatouage.
Soleil-lune.
Juste là.
Ah donc, ouais. Bah, il est pas mal, on pourrait en faire un symbole dans le livre.
Bah ouais.
Ah, trop bien. J'ai envie de le prendre en photo pour le montrer, mais je vais pas exagérer. On va écouter. On va laisser en suspens
ouais.
Tout ça, tous ces mots, tout, tout ce début, si vous voulez bien, écouter la première musique qui a été la première pensée tout à l'heure, comme on savait qu'on allait partir sur l'approche de la mort, là. Et on va revenir pour la carte suivante. Ok, on est de retour dans la Cité des Interdits avec Alain et Isidore et Bastien à la technique. Je poste la nouvelle carte sur le podcast de la radio, Radio Campus Grenoble, Cité des Interdits, l'émission du mardi. Isidore, est-ce que tu veux commencer par la description de cette carte, s'il te plaît ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une carte qui nous montre une abeille, je pense, en tout cas un insecte.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est une abeille. Donc il y a une grande abeille qui est au centre avec avec 8 abeilles qui l'entourent en cercle. Et donc leurs ailes font des petits motifs presque. Enfin, il y a un entremêlement d'ailes autour de l'abeille centrale qui fait un petit motif. Et on retrouve encore 8 petites abeilles sur les bords.
Est-ce que le numéro 8, pour toi, a une signification ?
Il peut m'évoquer l'infini. Parce que bah, déjà, un 8, si on le tourne, ça fait le symbole de l'infini. Et c'est aussi...
Oui, vas-y, c'est aussi.
Non, mais c'est que je vois un peu une progression dans les symboles des chiffres, où le 6... serait plutôt un chiffre mauvais avec le fameux 666.
Okay.
Et 777, c'est souvent un chiffre un peu divin, et pour moi, le 8, c'est l'univers entier, ça va encore au-dessus, mais voilà.
Ok, merci beaucoup, c'était une petite parenthèse. Alors, cette abeille entourée d'abeilles, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Qu'est-ce qu'elle peut nous raconter ? Enfin, qu'est-ce qu'elle te raconte ?
Déjà, je trouve ça intéressant parce que j'y vois une image d'organisation.
Ah oui.
Parce que bon, bah, l'abeille, on sait que c'est un petit peu comme les fourmis, il y a cette image de communauté et d'organisation, de travail aussi. Et en même temps, c'est pas du tout un ordre.
Ah oui. Processionnel.
Ouais.
Ah ouais.
C'est presque fractal, il y a beaucoup de mouvements dans l'image.
Oui.
Un mouvement assez circulaire d'ailleurs.
Oui.
Donc ça, je trouve que ça inspire vraiment. Ça me donne l'idée d'une forme de fluidité créatrice. Je sais pas si ça a du sens, mais
elle est couleur miel.
Oui.
Cette carte.
Oui, c'est vrai, j'ai pas trop parlé des couleurs, mais...
C'est juste pour te mettre sur le...
Jaune et
sur
orange.
Sur un chemin des symboles. Qu'est-ce que c'est que ce miel ?
Le miel,
rapport à l'animal.
Bah, c'est le fruit de son travail.
Oui.
Évidemment.
C'est ça, oui.
Et le miel, c'est... C'est l'abondance aussi en général. C'est une image de... Oui, d'abondance.
Il y a de l'immortalité aussi, je crois.
Ok, ah ça je... Je connaissais pas ce sens-là.
C'est une des rares denrées, voire la seule qui ne périt pas.
D'accord.
Je crois.
Mais du coup, ça peut... Bah justement, c'est...
Ah, c'est aussi... ça y est, je viens de voir quelque chose.
Ouais.
C'est Florie et toi qui m'a mis sur... En fait, cette grande abeille, elle a plus qu'un rôle de reine, si on le rapporte à la question de la production.
Mmh.
Elle est... Ah ouais. Est-ce qu'elle n'aurait pas une signification supérieure à la royauté, justement? Est-ce que la gelée royale, c'est pas...
Ah.
Est-ce que c'est inabouti, peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette carte quelque chose qui appelle à quelque chose de supérieur au terrestre?
Si, absolument.
Ah oui.
Et je trouve que...
Ah, t'es d'accord là?
Ouais.
Ah, ouais. D'accord. Ah,
mais c'est intéressant parce que ça rejoint une réflexion que j'avais avec ce que me disait Florie. C'est justement sur cette idée d'immortalité aussi.
Oui.
Et aussi le miel qui soit un fruit de son travail, enfin, un fruit du travail. Avec la production, il y a cette idée qu'on peut produire des choses qui nous dépassent.
C'est ça.
Qui restent après nous.
C'est ça.
Et c'est vrai que c'est une idée que je trouve vraiment hyper importante, en fait, d'essayer de travailler et de produire des choses pour que...
Ah oui.
Pour être un peu immortel, entre guillemets, par rapport à ce qu'on laisse derrière nous.
Exact, c'est ça, exactement.
Que ce soit des œuvres, des objets, ou des enfants aussi, mais ça dépend de ce qu'on veut. Mais ouais.
Ça te parle dans toi, dans ton travail, dans ce que tu fais au quotidien, enfin, dans ce que tu imposes comme règle de vie, d'hygiène
Ouais, complètement. Bah, j'essaye d'aller un peu au-delà de ça et de pas rester là-dessus parce que ça peut être un peu des obsessions parfois un peu trop qui prennent un peu trop de place parfois, mais je trouve que justement l'idée de produire des choses pour rester là après notre mort, en fait, enfin je trouve que l'angoisse de la mort peut toujours avoir un rôle ou une importance dans une démarche, enfin que ce soit artistique ou en règle générale, mais...
Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Donc, parce que moi, par exemple, l'angoisse de la mort, je l'ai très peu connue. Ça commence maintenant que je vieillis Est-ce que toi, par exemple, tu as pensé plus souvent? Tu as une sensation?
Je sais pas trop. Je dirais que j'ai toujours beaucoup pensé, mais je sais pas si c'est vraiment une forme d'angoisse. En réalité, ce serait davantage l'angoisse du temps qui passe.
Ok.
Ou là, le temps, ça m'a toujours, ça m'a toujours dévasté. Mais c'est drôle parce que je me rappelle, enfin, un des premiers souvenirs que j'ai par rapport à ça, j'étais vraiment tout petit et j'avais passé un Noël en famille qui avait été complètement gâché parce que je pensais pendant une semaine, j'ai pensé juste au temps qui passe et je devais avoir 8 ans ou 9 ans, mais j'avais pris conscience que le temps passait. Et du coup, tous les moments sympas que je vivais avec ma famille, je me disais, bof, de toute façon, le temps passe, donc dans 2 ans, ça n'existera plus. Et ça m'avait complètement ruiné.
Ah.
Et bon, après, on arrive à faire la part des choses quand même, mais...
Je brûle de te poser une question.
Vas-y.
Nous avons vu précédemment une carte où il y avait deux personnages.
Ouais.
L'un est l'homme, l'autre est l'animal. Je voulais savoir qu'est-ce que tu peux dire de l'animal de la première carte et de l'animal de la deuxième carte, et qu'est-ce qui en font quelque chose qui peut exciter notre intelligence.
Alors, moi, c'est intéressant parce que je dirais que les deux sont complètement opposés.
Voilà.
Parce que la première carte, l'animal, c'était un bélier, donc qui incarne juste la, je dirais, la force, enfin une force passionnée. Et c'est un animal qui fonce la tête la première. Alors que là, à l'inverse, on a une abeille qui est vraiment industrieuse, enfin très...
organisée.
Voilà, très, très patiente, très organisée. Mais justement, je trouve que c'est peut-être le choc et l'alliance des deux qui peut créer des choses intéressantes aussi. Justement, si on a un peu la rigueur et la patience de l'abeille avec la passion du bélier qui peut nous pousser à faire des trucs...
On se dit que ça doit être sympa.
Bah ouais.
Bien, bien.
On regarde encore des cartes ? Ou Alain, t'as des questions ? Tu veux ajouter quelque chose sur
cette... Moi, je m'interroge parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi je lui ai mis des lunettes de skieur bleu.
Pour une abeille.
C'est-à-dire, en fait, je crois que j'ai voulu m'amuser en détruisant la magie de l'abeille et en pensant aux yeux bleus des mouches bleues, dites les mouches à merde.
Donc du coup, t'as un petit problème avec la royauté, là.
Donc je crois qu'il y a un sarcasme tout de même dans ce regard bleu qui est complètement invraisemblable. C'est-à-dire, on est capable de distinguer une bête de la terre et une bête divine. Un animal qui a une destinée divine. Mais manque de chance, elle porte des lunettes de skieur bleu.
Non, c'est marrant, ouais, j'avais pas du tout capté.
Non, mais non. C'est... Non, parce que c'est un clin d'œil. Ah, mais il est gros.
Oui. Merci. Ouais, c'est vrai que justement, en fin de compte, même les entreprises les plus nobles, c'est pas grand-chose.
Oui. Ici-bas, c'est... ici-bas.
Voilà.
Jeu d'esprit.
Et donc, moi, j'ai retenu le mot sarcasme. Oui. Est-ce que tu te souviens d'un sarcasme qui t'aurait vraiment emmerdé, puisque
non. Là comme ça j'ai pas, enfin si, en fait la seule chose qui me vient, mais c'est pas vraiment un sarcasme, c'est plus une blague un peu traditionnelle, mais...
Ouais.
Oui, c'est mais une grosse blague
en termes de, enfin c'était un peu un sarcasme, mais j'ai cru jusqu'à assez tard au Dahu. Voilà.
Ah oui, c'est bien ça. Ouais.
Et
heureusement que la terre est ronde.
Oui. Parce que je me dis, tout est possible, il existe. Enfin, déjà, les girafes, c'est fascinant comme animal. Il y a des poissons dans les abysses qui ont une lumière sur la tête.
Oui.
Je me dis, tout est possible. Mais du coup, je devais avoir 17 ans ou 18 ans quand j'ai compris que.
Ah, moi, j'y
qu'on
crois
s'était
encore.
Moqué de moi.
Parce que j'ai cru l'avoir vu en revenant de 6 heures de route d'Italie. J'ai vu le Dahu, par exemple. J'étais convaincue.
Ah, bah voilà,
peut-être
bon, en fait,
j'étais fatiguée, je sais pas. Mais...
Non, non, mais je te crois.
J'étais contente blague. De l'avoir vu quand même.
C'est la grosse blague.
Donc il était là en 2013.
Alors, une autre carte.
On va regarder une autre carte.
Allez.
Avant, on va écouter la deuxième musique.
Ouais.
Comme ça nous laisse le temps de la poster sur le podcast. C'est parti pour le deuxième temps.
It's the end, friend of mine. It's the end, friend of mine. Time is over. Oh, we could simply say I love you. Now you open the door. Leave me crying, trying to embrace you again, trying to face this damn situation. Man, I can't. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well. Good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt. Do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and it's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over when we could simply say I love you. Now you open the door. I feel cold. Why can't I hold you in my arms? Told you that life is short, but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend.
Ok, on est revenu. On pensait que c'était pas tout à fait terminé, mais nous sommes là, donc ça va tout à fait reprendre. Nous avons ouvert l'image numéro 44 avec Isidore et Alain. Est-ce que on fait une description de l'image et ensuite on en parle?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Donc c'est un portrait de deux femmes, je dirais. L'image est dans les tons assez sépia, beige, et le portrait est un peu dur à décrire, je trouve. Enfin, les traits sont très flous, très brouillés. On dirait un peu une photo, une vieille photo qui serait délavée par le temps. Et c'est une image qui est assez forte, je trouve. Ouais, ça peut être soit une photographie soit délavée, ou peut-être un souvenir lointain qu'on aurait, comme quand on n'a pas revu quelqu'un depuis très longtemps et qu'on n'arrive plus très bien à se souvenir de ses traits. Moi, ça m'évoque ça, donc ça me donne une sensation de nostalgie assez forte.
La nostalgie, oui, je l'avais pas, celui-là, nostalgie.
Mais c'est un peu flippant aussi comme portrait. C'est peut-être aussi un fantôme, on sait pas trop.
Pour toi, pour toi, est-ce que, déjà, fantôme, est-ce que t'es ok avec le fait qu'il y ait des fantômes? Qu'est-ce que c'est, ouais, un fantôme pour toi, par exemple?
Un fantôme, ça peut être un souvenir, justement. Parfois, on rêve de personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et c'est aussi un peu des fantômes.
Ah.
Quand on rêve, qu'on discute avec des gens qui ont disparu. Ouais. Et puis ça peut être aussi dans des objets, des lieux. Enfin, c'est... Et c'est intéressant justement de voir que... comment des gens peuvent disparaître aussi. Là, c'est pas spécialement un tabou, mais plus un thème que je trouve important, celui de la disparition. Parce que, quand on parle de disparition, on parle pas forcément de décès, quoi.
C'est ça.
Enfin, ça peut être des proches qui sont morts et qu'on voit plus, mais il y a aussi des gens, parfois, qui disparaissent sans qu'on sache trop pourquoi.
Ouais.
Et c'est intéressant. Enfin, je sais que j'ai un ami comme ça, quelqu'un avec qui j'étais très ami à une époque, et... Bon, j'ai plus aucune nouvelle. C'est toujours intéressant. Je trouve comme thème, enfin, je sais pas trop comment dire, mais l'idée du mystère et de l'inconnu, d'avoir aucune idée de ce qui s'est passé.
Et du coup, tu respectes cet inconnu et ce mystère? Parce qu'il va t'apporter d'autres mystères et d'autres inconnus. Ou est-ce que c'est difficile pour toi de dire, purée, mais j'aimerais savoir?
Non, justement, je trouve que c'est... Enfin, ce mystère est important. Enfin, ça ouvre toujours des nouvelles possibilités, en fait.
Oui, ok. J'ai bien compris, pardon.
Mais je trouve que c'est justement intéressant, en règle générale, de laisser une zone de flou. Comme d'ailleurs pour les traits de ce visage qu'on ne devine pas très bien. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas précisé, peut-être tout et n'importe quoi, donc ça laisse l'univers des possibles. Ouvert, quoi.
Voilà. Et ça, ça, ça n'enferme pas. Du coup, c'est bien. Alors que, par exemple, si effectivement la disparition d'un être cher ou quelqu'un, quand on voudrait donner du sens, que tout soit clair, souvent c'est, et souvent le flou est vraiment ce qui peut omnubiler pour d'autres, quoi. C'est...
Oui, ouais, ouais.
Donc là, on vient de se souvenir de ce copain d'avant. D'accord. Si tu regardes Alain, tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as eu des inspirations?
Oui, j'ai beaucoup aimé quelque chose qui s'est dit. C'est que le réel s'estompe. Et c'est assez intéressant parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que notre réel, ici maintenant? Qu'est-ce que c'est que la mémoire qui fut réelle? Et qu'est-ce qu'est la projection vers un changement d'état? Et parce que là, on est dans une interrogation sur quel est l'état exact. À quoi s'apparente l'état de ce portrait de cette jeune femme? Si on doit lui trouver une réalité de sa vérité, qu'est-ce que pourrait être sa vérité? Est-ce que ce serait dans la mémoire, comme tu l'as dit, qui a estompé les visages? Voilà. Ou est-ce que son réel, c'est que...
Peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait réelle, parce qu'elle est imaginée par quelqu'un, enfin.
Ah. C'est intéressant tout de même, ce premier regard inquisiteur, ces lunettes bleues, et tout d'un coup, que disent ces yeux-là de cette femme?
Ah, justement, c'est... Ils sont assez difficiles à discerner.
Oui.
Et elle a les sourcils froncés aussi, mais c'est pas du tout de la colère ou.
Oui.
Je pense qu'elle a vraiment. Enfin, je trouve que son regard exprime vraiment l'incompréhension pour le coup.
Ah, d'accord.
Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Mais ce qui va de pair du coup avec toute cette idée de flou et d'imprécision. C'est très brumeux, je trouve.
C'est ça. Bien, bien.
Parce que là, on est dans cette carte-là. Dans toi, est-ce que tu fais de ta passion ou est-ce que tu mets la brume? Par exemple, tu la mets pas dans la musique, on sait que c'est éclairé, t'es passionné pour la musique.
Oui.
Là, c'est pas ici que tu vas. Ouais.
Mais après, ça dépend. Il y a des moments où j'ai justement l'impression que la brume est partout. Je dois me dépatouiller avec cette brume et ce flou.
Ah, oui.
Mais après, elle est surtout sur les aspects les plus concrets et les plus importants, entre guillemets, de ma vie, je dirais. Enfin, les plus importants d'un point de vue extérieur. Ce qui est important aux yeux de la plupart des gens, mais...
Ouais. T'es brumeux.
Ouais.
Ce qui est important pour ceux qui sont de l'extérieur, toi, c'était complètement brumeux. C'est ça que tu dis ou...
Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est surtout que quand je rencontre des gens et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, et qu'on s'attend à ce que je parle d'un travail ou... Enfin, de choses très normales et concrètes. Bizarrement, c'est là où j'ai le plus de mal et où c'est le plus flou et brumeux, quoi.
Oui. Oui. Mais c'est faute de pouvoir te nommer et t'inscrire dans l'espace social. Et c'est ça qui rend brumeux, c'est que tu peux pas nommer.
Ouais, je pense qu'il y a ça. Mais je pense qu'il y a un peu une ambivalence aussi. De...
Ouais, parce que c'est pas la première fois que tu abordes cette question du flou.
Ouais.
Et peut-être même aussi d'inconsistance de la matière qui t'accueille.
Oui, tout à fait.
C'est comme un désarroi d'une matière qui ne te convient pas, parce que elle est cotonneuse, elle est floue, elle est indistincte, elle est... Ah oui, je comprends.
Mais après, peut-être que justement... Je
m'abuse pas.
Peut-être que ça me convient comme ça aussi. Enfin, plus dans le sens où...
C'est amusant.
Oui, mais je préfère m'éloigner parfois de la matière et du réel. C'est bête, mais...
Mais ce serait j'aime un bien jeu, en fait. Ce serait le jeu de dire, oh là, à contre-pied, quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et puis j'aime bien, justement, un peu tous les jeux mentaux et philosophiques qui essaient de prouver que, justement, le réel n'est pas réel. Et ouais. Que la matière n'est pas réelle.
On n'a pas un réel commun.
Oui.
Ça, c'est intéressant, ça. Parce qu'en fait, là, je vais dévoiler l'énigme. L'énigme de cette carte, c'est qu'elle tente de parler d'une personne aveugle.
D'accord.
Et la représentation de gens qui sont aveugles, de naissance par exemple, ils n'ont pas du tout le même univers que nous. Et donc c'est intéressant d'accepter que l'autre ait des univers différents. Que tout un chacun, on vit dans un monde qu'on a construit et qui ne peut pas être ressemblant à l'identique de l'autre.
Ouais.
Ah oui, donc du coup, ça me fait rebondir sur le parent, je ne sais pas pourquoi, qui voudrait peut-être qu'on soit identique à lui, mais il faut s'affirmer et lui dire, en fait, je suis différent, et après, une fois que tu as dit je suis différent, tu vois que tu es identique.
C'est intéressant par rapport à ce que dit Isidore, parce que il a cette difficulté qui ressurgissent assez souvent dans ce qu'il ressent, c'est la place qu'il va se donner, alors qu'on l'imagine ici et là, faisant, etc., etc. On lui assigne presque des rôles dans lesquels il n'est pas forcément inclus, puisque lui peut aussi imaginer d'autres univers. Et ce personnage, il imagine d'autres univers pour moi. Là, on n'a pas un univers commun.
Bah, il faut trouver les terrains communs qu'on a, mais c'est vrai que chacun a son propre univers.
Ah, ça y est, on y arrive. C'est ça.
Mais oui, chacun se évolue et se crée son propre monde, mais il faut se trouver ses langages communs.
Ah oui, tout à fait.
Et c'est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, Florie, cette idée de s'affirmer par rapport aux parents, de dire non, je suis différent, et de se rendre compte après qu'on est identique. Mais justement, moi, je pense qu'on peut trouver une forme d'entre-deux, quoi.
T'as trouvé ça, toi ?
Non, mais enfin, j'essaye de me dire ça sert à rien d'aller au combat et de m'affirmer comme différent, mais parce que je le suis de toute façon. Mmh. Donc, je peux trouver le terrain d'entente avec les gens et avec l'autorité parentale.
Ouais,
et par contre, derrière développer ce que je suis vraiment. Et même mon propre monde aussi. Mais c'est vrai, c'est toujours dur. Et on n'a pas toujours de terrain. Il y a des gens avec qui c'est plus dur de trouver un langage commun, quoi.
Oui, ou alors c'est plus dur de mettre son langage dans le langage commun.
Oui. Ouais.
J'ai fait l'expérience. J'ai fait un repas de famille. J'étais très contente de faire comme. Mais je me suis ennuyée de manger comme. Donc je me suis dit, peut-être la prochaine fois, alors qu'ils attendaient d'être dans mon langage, et moi, finalement, je voulais faire simple par fatigue d'esprit, parce que c'est quand même la haute gymnastique, parfois, quand on est fatigué.
C'est clair.
Je trouve, pour des personnes aveugles comme moi, n'est-ce pas ? Bon.
Qu'est-ce qui peut se dégager, déjà, depuis... le début de cette narration jusqu'à maintenant, qui rassemblerait un interdit, ton interdit ou nos interdits communs. Qu'est-ce que tu ressens ?
Je trouve justement la question de, enfin, les questions du temps et de la mort, du souvenir se sont trouvées dans chacune. Et comme interdit, je dirais peut-être justement celui de, comment dire, moi je parlerais justement de l'interdit de se créer sa propre route, de se frayer son propre chemin, quoi.
De se créer, de se frayer.
Tu parles de l'identité, la tienne, ouais, celle de l'autre.
Tout à fait.
T'as déjà commencé en t'appelant Isidore.
Oui.
C'est pas mal, ça.
Isidore, c'est un cache-pot.
Complètement.
Mais ça fait joli, les cache-pots.
C'est un cache-pot d'un bégonia. Peut-être qu'on n'accepte pas que tu sois bégonia.
C'est beau, les bégonias aussi. Oui. J'ai l'impression d'être...
Non, mais c'est...
Je veux dire,
c'est un pseudonyme qui est un masque comme un autre. Je pense que
oui.
Si je le retire, il y aura d'autres masques en dessous, en fait.
Oui, c'est ça.
Oui.
Il y a toujours l'idée que si on soulève le masque...
Ah, mais ça fait penser...
Il n'y a pas de visage, mais il y a un autre masque en dessous.
Ah.
Mais
derrière le visage, il y a autre chose.
Bah, derrière le masque, il n'y a pas de visage, mais il y a un autre masque.
jusqu'à ce que... Par exemple, dans moi, ce qui est le plus difficile en tant que... Enfin, si je voyage dans le temps et que je me remets à mes explorations artistiques, j'allais vers des choses pour pouvoir un petit peu dépasser ou me trouver, savoir pourquoi j'étais là et je faisais ce que je faisais. Et ce qui m'était le plus difficile à accueillir pour pouvoir entrer dans l'univers de l'expression, de la créativité, de la création, je sais pas, c'était le rire. Donc on va faire, si vous voulez bien, un exercice. Juste comme ça, où on pourrait rire de trois tabous qui seraient là, je sais pas comment dire, le dire, mais en se marrant. Enfin,
ouais.
Est-ce que tu vois ce que... Oui. Essayer de rire alors, oui, non, mais c'est grave. Par exemple, là, moi, sur la carte numéro 2 avec l'abeille,
ouais.
Essayer de rire de la mort d'un hérisson, vas-y, sois clown, je t'en prie, j'attends la blague. Tu vois,
c'est... Là, c'est un peu plus dur, ouais.
Mais c'est dur. Mais arriver à un tel niveau de maîtrise, je crois que j'ai... Il y a quelque chose de l'ordre de c'est ce qui nous donne le pouvoir de la musique, quoi.
Ouais.
Mais il y a... Je sais pas. C'est vrai, c'est dur.
Et c'est intéressant parce que moi, c'est les larmes, justement.
Par rapport... Ah oui.
Non, mais mon tabou à moi.
Vas-y, raconte. Enfin, je comprends pas.
Si.
Non, mais
ah
c'est...
si, ah, oui, vous comprenez.
Si, vas-y.
Je sais pas. Non, mais c'est...
Il est tout près de le dire.
Ben, c'est les larmes, mais...
Oui. Non, mais c'est juste dans le sens où... Où je ris très facilement de tout et très souvent quand il faut pas rire. Par contre, j'arrive jamais à pleurer.
Ah ouais. Voilà.
Ah, tu vois.
Mais c'est intéressant du coup.
Et tu vois, c'est arrivé plus tard les larmes. Je suis pas sûre que je pleurais bien avant 28-30 ans.
Ouais.
Moi aussi, j'ai mis du temps à pleurer.
C'est vrai que tes larmes me font rire. L'absence de tes larmes, ça me fait rire.
Ah bon?
Bah ouais.
Parce que quand la première sensation que j'ai de toi, Isidore, c'est que t'es l'homme du sourire. Alors comme si c'était... Ouais. Voilà, ça fait partie de tout l'habillage social pour être convivial, sympathique.
Ouais, mais il y a un...
Mais il y a un interdit aussi de pleurer.
Oui, complètement. Et l'interdit du sourire aussi. Enfin, c'est intéressant parce que justement, il y a le sourire sincère et le sourire réflexe, un peu gêné.
Mm.
Et je sais que par exemple, quand on m'engueule, je souris par réflexe. Mais du coup, c'est toujours. Souvent, on m'engueule encore plus parce que c'est vu comme une forme d'insolence, mais.
Mais en fait, c'est juste
un réflexe, quoi.
Ça fait penser à ce masque dans les masques de Venise, où il y a celui qui sourit d'un côté, celui qui pleure de l'autre, oui. Pierrot. Moi, j'ai encore pas bien compris. Mais en tout cas...
Jean qui rit, Jean qui pleure.
Ouais.
Ouais. Il y a une bonne idée de dire...
Dire les larmes.
Oui, de rire des larmes. Les larmes qui ne viennent pas. Qu'est-ce que c'est que ça?
La rébellion de la larme. est-ce que tu saurais te souvenir justement de cette phrase clé qui dit « mais tu vas pas pleurer » ou... Une expression, une satanée expression qui te dit « bon bah rigole maintenant
». Pleure pas, c'est t'es un homme, tu souffres oui. pas, pleure pas.
Ça, et ça, évidemment. Ça, on l'a toujours dit.
Ah oui, tu vois,
mais
ça existe.
C'est un véritable interdit de génération. Est-ce qu'il n'est pas en train de se lever en ce moment? Et ce qui fait qu'il y a une confusion entre les générations.
Oui. Bah, pas tant que ça, enfin, je sais pas trop, mais...
Ok.
Je pense qu'il se lève, mais il revient aussi par d'autres endroits. Enfin, je...
Puisque et toujours pas dit, quoi.
C'est ça.
Ou toujours pas ri. Non, je rigole. Bon, je suis déterminée à vouloir rire, moi, je crois. Est-ce que... au niveau de cette carte-là, ouais. La carte de l'âge, la carte qu'on va ajouter, la carte un peu... qu'est-ce que ça peut t'emmener à dire quelque chose au sujet du genre, par exemple, féminin, ou au sujet de...
Ouais, oula, alors... Parce que le genre, là, c'est encore un autre continent, si on parle là-dessus.
Vas-y, mais, raconte. Non, je... C'est quoi Ah oui, moi, je veux bien comprendre quelque chose, parce que on a tous notre idée du genre, mais elle est, en fait... très personnel. Et pourquoi tu appelles ça un continent? Un continent lointain?
Ouais, parce que c'est... Pour moi, c'est un truc qu'on n'arrête pas de découvrir et de réexplorer.
Ok.
Parce qu'après, j'ai un rapport un peu particulier au genre, je pense. Enfin, un rapport, je sais pas, mais beaucoup de questionnements, donc c'est toujours intéressant. Et ça va aussi en lien, pour moi, avec le soleil-lune.
Ouais. Ah oui, ce côté yin-yang qu'on a en nous, c'est-à-dire qu'on a notre part de féminin sacré et intime, et intérieur, et notre part de force et de masculin, la voix sensible et la voix puissante.
Ouais,
ce qui est
tout à fait.
Ça, c'est ça qui... Et donc, être en paix avec ces deux voix, c'est tout un c'est ça que...
C'est ça, il faut arriver à trouver une forme d'équilibre.
Et c'est dommage qu'on segmente autant dans l'extérieur ce truc du genre là, ce qui fait qu'on n'arrive même plus à être à l'écoute de... Je sais pas ce que je veux dire, mais je vois ce que je veux dire.
Non, mais je vois très bien, mais c'est intéressant parce que je pense que passer un certain stade, on peut arriver à s'en foutre un peu plus, quoi.
Lumière!
Nous sortons de notre caverne.
Donc on raconte ce qui vient de se passer. La lumière est revenue au ciel. Et là, c'est de la poésie.
Et Isidore, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors,
non, ouais, il
qu'est-ce que tu toi, si tu avais la tentation de lever un tabou en toi, dans toute l'histoire que tu nous viens de nous raconter, qui est très très cohérente du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui serait ton ambition pour dépasser un tabou qui existe sans que, t'es pas obligé de le nommer, mais est-ce que tu comprends dans la question que ce qui est difficile, c'est qu'en nous il y a toujours quelque part quelque chose qui s'interdit et s'interdisant ne peut s'émanciper
complètement.
Et donc ma question, elle est sur cet ordre d'idées. si toi tu avais pouvais exprimer un tabou qui est fort en toi, et peut-être tu pourrais nous le dire déjà, ce serait assez merveilleux, et peut-être que tu pourrais nous dire en quoi il est important que tu puisses t'en émanciper.
Je dirais que l'ambition, ce serait un peu d'arriver à briser le mur qu'il peut y avoir entre moi et les autres. On n'a pas forcément l'impression que c'est le cas comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu ce tabou de l'identité, pardon. En règle générale, moi, l'ambition, ce serait justement d'arriver à parler aux autres, à communiquer, et à me dire pour fixer des limites et dire en règle générale ce que je veux, ce que je suis, etc. Ce qui n'est pas toujours évident, en fait.
Je peux t'arrêter ?
Bien sûr.
Le tabou, ce serait la limite ?
Oui.
Fixer des limites. Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que tu t'interdis d'aller chercher tes limites, Popo ? Parce que, en fait, c'est pas connu.
Mais ça nous est commun, la limite. Ça nous est commun. C'est même extraordinaire. Je peux te surprendre dans ma grâce, mais aussi dans ma grossièreté, parce que justement, j'ai franchi une limite qui va te paraître indécente, ou qui va te paraître brutale, ou qui va te paraître assassine, je ne sais pas. Mais il me semble qu'on comprend tout de même très bien. Ce que tu viens de nous raconter, c'est que la limite, le concept de limite, est difficile à raconter.
Exactement.
Parce que c'est tes limites, c'est aussi mes limites, où est-ce que c'est commun ? Où sont nos limites ?
Justement,
tu vois, dans le chaos mondial, on peut être inquiet de cette absence de limites.
Ouais.
Limite éthique, limite morale, limite etc. Il y en a beaucoup.
Mais c'est juste parce qu'elles sont sans cesse repoussées et que s'il y a personne pour dire la limite, elle est là.
Oui.
Et elle va être repoussée de plus en plus.
Oui.
En fait. Et pour moi justement, il faut arriver à savoir où il vaut mieux qu'elle se situe.
C'est ça, voilà.
Pour dire.
Voilà. Pour pas mettre en péril.
Exactement.
D'accord. Parce que c'est ce que tu racontes. Pardon.
Non, mais justement, ça peut être parfois ma difficulté à repousser mes propres limites à l'intérieur de moi-même.
C'est ça.
Pour laisser de la place aux autres, par réflexe, alors que parfois je devrais juste dire non. Enfin, je pense qu'on a peut-être un peu dérivé là, mais je sais pas.
Si,
mais...
c'est pas mal, mais est-ce que tu as une image ?
Tu parles de l'intégrité.
Ouais,
tu dis qu'il y a une limite. Moi, j'ai une limite, t'en as une. Et tu peux forcer ma limite, et dans ce cas-là, tu atteindrais mon intégrité, ce qui ferait que je ne pourrais pas être d'accord avec toi.
Ouais.
Tu parles d'un désaccord, ainsi.
Bien. Donc, on pourrait, cette semaine, penser à s'accorder à chacun de nos rencontres, voir ce qu'est l'intégrité de chacun, et ça ferait des accords. C'est un mot musical pour dire que nous avons touché à la fin de l'émission. Ça commence à grésiller, c'est les dernières secondes. Nous étions sur Radio Campus Grenoble. Je vous remercie tous de votre écoute.
Merci Florie.
Merci Isidore.
De passion, patience. À la semaine prochaine et à très bientôt pour les autres. Salut. On ferme la cité des interdits.
Bye bye.
Au revoir.